Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, c'est la curiosité, c'est jusqu'à 22h et c'est sur RTL. Ça va Sidonie?
Ça va très bien Thomas, bonsoir à vous les curieux. Au programme, on va voyager ensemble, on va contourner les préjugés, l'Irlande, l'Australie et le Japon. Par exemple, vous pensez que Tokyo est une ville infernale et inhumaine. Vous allez découvrir des cafés lilliputiens, des quartiers chaleureux et des pétales de cerisier qui tombe dans votre verre de saké pour vous souhaiter le meilleur dans la vie.
Et puis on va raconter l'histoire de Jeannine, Françoise, Anne et Pierrette, des femmes qui sont aussi des mamans. Leurs fils et filles s'appellent Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. Les politiques aussi ont une mère, on va les découvrir vers 21h15 sur RTL.
Et tout de suite, ils ont disparu sans laisser d'adresse.
Curiosité est un vilain défaut.
Celui qui part, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas quelqu'un qui est lâche, ouais. C'est quelqu'un qui ne se sent plus à sa place là où il est, qui va en se sauvant, se sauver lui-même en fait. Je pense que quelque part c'est une démarche qui évite le suicide aussi souvent. J'exploite tous les éléments que les personnes me donnent donc, et je tire sur des ficelles, voilà, je fouille partout.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
5000 personnes, le chiffre est impressionnant, 5000 personnes qui disparaissent chaque année. Si vous voulez tiens, réagir sur ce thème, vous pouvez nous appeler au 3210 ou sur rtl.fr. On va partager le destin de ceux qui partent et de ceux qui espèrent leur retour avec notre invitée Patricia Fayet. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Bienvenue, vous êtes journaliste spécialisée dans les disparitions, dans ces enquêtes difficiles, familiales. Vous avez longtemps travaillé avec l'ami Jacques Pradel dans son émission Perdu de vue. C'est là que vous avez attrapé le virus de l'enquête?
Complètement. Ouais. Ça m'a saisi, ça m'a pris aux tripes et ça ne m'a jamais lâché.
On va voir que ces investigations ont eu des conséquences sur votre propre histoire familiale, on racontera ça tout à l'heure. Mais d'abord, tiens, on va rentrer dans le vif du sujet en racontant déjà l'une des disparitions que vous avez résolues. Tout commence en juillet 62 et Colette disparaît. Qui est Colette ?
Colette, c'est une maman qui vient d'avoir une petite fille qui a 3 ans, qu'elle a eue avec un compagnon qui est joueur de cartes, qui est violent, qui sort beaucoup. Et elle ne supporte plus sa vie et elle a très peur de lui. Donc un jour, elle va disparaître.
C'est et une jolie femme, mannequin.
Elle est splendide. Ouais. Elle est jeune, elle est mannequin, elle est grande. Voilà, les hommes lui font la cour. Et elle disparaît.
Sans sa fille.
Elle disparaît sans sa fille du jour au lendemain, au mois de juillet 62. Et donc sa fille mettra des années évidemment à entreprendre des recherches qui n'aboutiront nulle part, jusqu'au jour où la nounou, puisqu'elle va être confiée à une nounou, le père ne pouvant pas l'élever seule, va lui remettre 2 documents qu'elle a reçu de sa mère quelques années après sa disparition. Une première carte venant de Santa Fe.
C'est où Santa Fe?
Une première carte venant du Chili.
Ah, du Chili, c'est ça.
Où elle annonce qu'elle vient de rencontrer quelqu'un de très important, qu'elle s'apprête à se remarier et qu'elle va faire un passage éclair en France pour faire valoir ses droits sur sa fille. Et un deuxième courrier avec un article du journal en langue espagnole, toujours, annonçant qu'elle se marie finalement avec cet homme très important qui est ambassadeur et qu'elle se marie à la basilique du Santissimo Sacramento de Santa Fe.
Comme un faire-part de mariage, en quelque
sorte, dans
l'article. Donc ça, c'est ce que la jeune femme la femme qui va vous contacter des années plus tard vous donne comme point de départ de l'enquête, c'est
exactement.
Ça ? Exactement. Et alors, ça va vous mener où, cette
alors,
enquête ?
Alors, ça va me mener en Suisse. C'est juste improbable. Okay. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur ce dossier, en partant sur les pistes déjà du Chili, puisque c'était la première nouvelle venait du Chili. Au Chili, Colette était totalement inconnue du consulat, de l'ambassade. Enfin, j'ai fait diverses vérifications.
Donc, elle ne s'est pas forcément mariée avec un ambassadeur.
Donc, a priori, elle ne s'était pas forcément mariée avec un ambassadeur. En tout cas, elle n'était pas du tout transitée par le Chili. Donc, je me suis dirigée vers cette fameuse basilique où elle s'était mariée, basilique du Santissimo Sacramento, ouais. À Santa Fe. Et j'ai cherché la ville de Santa Fe. Et j'en ai trouvé des dizaines. En fait, il y a des dizaines de villes qui s'appellent Santa Fe dans le monde. Donc, en réduisant aux villes de langue espagnole, il n'en restait plus que quelques-unes. Mais dans ces villes de langue espagnole portant le nom de Santa Fe, ouais. Il n'y avait aucune basilique s'appelant Santissimo Sacramento.
Pas facile, votre enquête, dites donc.
Pas facile du tout. La seule basilique qui s'appelait Basilico del Santissimo Sacramento, ouais. Se trouvait à Buenos Aires, en Argentine.
Bon, donc ça collait pas.
Ça collait pas du tout.
Comment vous vous retrouvez en Suisse ?
Je me retrouve en Suisse parce que j'explore la piste de l'appartement, parce qu'elle annonçait dans un de ses deux courriers qu'elle s'apprêtait aussi à revenir en France pour vendre son appartement qui se situait, je crois, ici, les Moulineaux. Mmh. Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches par l'adresse, j'ai retrouvé le notaire qui était décédé, bien sûr. J'ai retrouvé le successeur de ce notaire, qui par chance avait conservé les archives de son prédécesseur, qui a accepté de me révéler ce qui était à l'intérieur, et il y avait l'adresse qu'elle avait donnée au moment où elle a vendu cet appartement, et cette adresse se situe en Suisse où elle vivait toujours.
Et donc vous êtes partie à sa rencontre et vous lui avez dit quoi ? Madame, votre fille vous recherche ?
Exactement, donc là c'était un grand moment de bonheur parce qu'elle n'osait pas revenir, elle avait toujours peur même 40 ans après de son ex-compagnon. On l'a rassurée, sa fille s'est engagée à ne jamais révéler ses coordonnées, donc ça s'est très très bien passé. Elles sont toujours en contact.
Vous avez organisé, assisté aux retrouvailles ?
Bien sûr, oui, j'ai assisté aux retrouvailles. La maman est venue avec son compagnon d'ailleurs avec lequel elle avait fui, elle était toujours avec lui et ça s'est très bien passé.
Ce qui est dingue dans l'histoire, il faut boucler ce récit par ça, c'est que l'histoire du Chili, l'histoire de cette basilique de Santa Fe, c'était totalement bidon en fait, c'était pour brouiller les pistes.
Ouais, c'était pour brouiller les pistes. Elle était tellement terrorisée par son compagnon qu'elle avait fui, qu'elle avait imaginé ce scénario rocambolesque pour qu'il ne la cherche pas, puisque étant très loin à l'autre bout du monde, il ne la chercherait pas, et deux, pour pouvoir surtout obtenir la garde de sa fille.
Patricia Faguet, vous racontez cette histoire et 39 autres dans un livre Disparu sans laisser d'adresse, publié aux éditions de L'Opportun. Dans ce livre, vous citez les paroles de cette chanson signée Serge Reggiani, l'Italien.
Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge.
18 ans de retard, c'est vrai, j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Et alors, c'est pas un hasard, cette chanson, c'est un peu la chanson des disparus volontaires, mais surtout, c'est aussi la chanson du rêve américain. Et on va vous raconter plusieurs histoires, plusieurs enquêtes qui nous mènent en Amérique. À tout de suite sur RTL.
La curiosité, vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel sur TF1.
Perdu de vue, Jacques Pradel sur TF1 avec nous, la journaliste enquêtrice Patricia Faguet. On découvre l'histoire et les motivations de ces milliers d'hommes et de femmes qui chaque année disparaissent sans laisser d'adresse. Patricia, ces enquêtes, c'est votre spécialité. Vous avez même un site d'ailleurs, c'est personnesdisparues.com. Comment il fonctionne ?
Alors il y a la possibilité de déposer des avis de recherche et il y a aussi un service d'enquête. Donc les gens font appel à moi pour retrouver concrètement quelqu'un.
Vous recevez beaucoup de nouvelles demandes chaque année ou chaque mois même ?
Chaque jour, on va dire.
Chaque jour ?
Oui, là surtout en ce moment, là, avec le livre, j'ai reçu en quelques jours 200 mails et je ne sais pas comment je vais faire pour y répondre.
C'est compliqué comme question, mais je vais vous la poser quand même. C'est pas facile d'y répondre, mais vous arrivez à résoudre la plupart de ces énigmes, à retrouver toutes ces personnes disparues, ou la plupart des gens qui disparaissent, on ne les retrouve pas en fait ?
Non, enfin moi j'arrive à retrouver la plupart des histoires auxquelles je m'intéresse, parce que je l'ai choisi quelque part. Je m'intéresse particulièrement aux disparitions volontaires, je ne touche pas à les disparitions inquiétantes, les disparitions de mineurs, je ne traite que d'histoires de famille, finalement ça a trait à la généalogie. Donc si je ne suis pas capable de résoudre l'histoire, je vais le dire aux gens, clairement, je vais leur dire je peux pas, il n'y a pas assez d'éléments, vous avez juste un prénom, vous n'avez pas assez d'informations.
C'est disparu volontaire, parce que maintenant, ça fait quoi, une vingtaine d'années que vous faites
25
ça,
ans.
C'est ça, 25 ans, vous avez du recul. Est-ce qu'ils mûrissent leur départ ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un coup de tête ou au contraire, ça demande une organisation, une préparation ?
Je pense que c'est un coup de tête. On va dire que c'est une préméditation inconsciente, sous-jacente. C'est un ras-le-bol. Hein. Alors pour certains, parce que je ne vais pas faire de généralité, mais pour certains, ce sont des gens qui ne se satisfont plus de leur vie ou qui ne se sentent plus à leur place, qui pensent être une charge pour leur entourage. Comme je le disais, qui, en se sauvant, se sauvent eux-mêmes. Et qui, pensant être une charge, sont finalement très heureux d'être retrouvés. S'y attendent à la limite presque pas. Après, il y a beaucoup d'histoires d'abandon, d'adoption, d'enfants, de frères et sœurs séparés par la DAS, par exemple. Donc là, ce sont des disparitions qui entrent dans les 5000 disparitions volontaires. Hein, ça fait partie du chiffre, mais c'est un cas de figure un peu différent.
Il y a aussi des gens que vous retrouvez et qui ne veulent pas renouer le contact. Est-ce que ça arrive souvent, ça ?
Très peu. Très peu, franchement, c'est 2%.
Oui, c'est rare ici.
C'est très rare.
Patricia Faguet, parmi les 40 histoires vraies que vous racontez dans votre livre, Disparus sans laisser d'adresse aux éditions de L'Opportun, il y a les bébés de l'OTAN, et parmi ces bébés, une certaine Carole. Qui est-elle ?
Alors Carole, c'est une jeune femme qui est née dans les années 50 à Metz, d'un papa américain et d'une maman qui était serveuse sur la base justement militaire et qui donc Carole va voir le jour, son père va la reconnaître contraint et forcé par les autorités américaines, ça rigolait pas et puis comme tous les soldats en 67 à la fermeture des bases, il repart dans son pays et il ne donnera plus aucune nouvelle hein, jusqu'à ce que Carole entreprenne des recherches. Sa mère n'a jamais voulu trop lui en parler. Elle a quand même récupéré quelques documents, notamment son acte de naissance sur lequel figurait la reconnaissance de son père et qui lui a permis de découvrir l'identité de son père. Donc elle a découvert qu'il s'appelait Paul, qu'il était né dans le New Jersey en 1938. Et à partir de là, elle a commencé à faire des recherches qui n'ont abouti à rien.
Et alors vous arrivez plusieurs années après, j'imagine, parce que c'est un peu toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que les proches cherchent par eux-mêmes et puis se disent on n'y arrive pas.
Voilà.
Et donc là, vous faites quoi ?
Eh bien,
comment vous retrouvez la piste de ce Paul ?
Alors, je retrouve la piste de Paul en m'intéressant au recensement de population, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment la première piste à creuser. Mm-hmm. Tous les Américains sont recensés et je m'aperçois que ce fameux Paul n'est pas né en 38, mais en 35. Donc il y avait une erreur à la base qui expliquait qu'elle ne le retrouvait pas. Et donc je suis allée à l'équivalent de l'état civil aux États-Unis pour faire des recherches. Je me suis rendu compte que ce Paul s'était marié, qu'il avait divorcé, qu'il était veuf depuis et qu'aux dernières nouvelles, il habitait à Boca Raton en Floride. Donc je m'y suis rendue, il habitait toujours à l'adresse qu'il indiquait sur son jugement de divorce.
Ah, là vous sonnez à la porte, et la porte s'ouvre.
La porte s'ouvre. Là j'ai le cœur qui bat très fort. Et quand il entend mon accent français, il croit que je suis sa fille.
Ah oui, bien
ouais.
sûr, c'est logique.
Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais tout de suite, je lui ai dit non, je ne suis pas votre fille, mais je viens de la part de votre fille. Et là, il a fondu en larmes, on s'est pris dans les bras, c'était très très émouvant, comme toujours d'ailleurs. Et il m'a dit, mais moi je l'ai cherché, mais je ne savais même pas son prénom. Ah. Il m'a invité à entrer, sa compagne, parce qu'elle avait refait sa vie, était au courant de l'existence de cet enfant. Et il avait conservé une photo, vous savez, les photos en noir et blanc dentelées de l'époque, de sa petite fille, voilà, derrière laquelle il y avait marqué que voilà, elle n'oublierait jamais son papa, mais il n'avait pas d'identité.
Les retrouvailles, est-ce qu'ils se sont retrouvés ? Est-ce
Bien
qu'ils y avaient
sûr.
Assisté ?
Alors, j'ai pas assisté aux retrouvailles parce que immédiatement ils se sont parlé par Skype parce que Paul ne pouvait pas voyager, il était trop âgé. Parce que Carole habite à l'île de la Réunion, elle a fait sa vie là-bas et donc
ça démarre sur l'île de la Réunion.
Ça démarre sur l'île de la Réunion, donc ils étaient un peu.
L'île de la Réunion, Floride, c'est pas mal. Comme
ça
enquête.
Fait des voyages, ouais. Et depuis, ils se sont vus, revus. Carole a pris l'avion plusieurs fois. Elle a rencontré une cinquantaine de membres de sa famille et elle y retourne bientôt.
Des bébés de l'OTAN, comme Carole, il y en a eu beaucoup ?
Il y en a eu beaucoup. Alors, les données ne sont pas connues. C'est dommage qu'encore aucun historien ne soit vraiment intéressé à la chose. On sait simplement, donc ça a duré 17 ans, hein, la présence américaine de 1950 à 67. Et ça a représenté plus de 60 000 soldats. Donc, on estime que sur chaque base, il y a à peu près eu entre 1500 et 2000 naissances. Donc, certains enfants, j'imagine, sont restés avec leurs parents, leurs deux parents. Mm-hmm. Mais certains d'entre eux, évidemment, comme Carole, n'ont pas été élevés par leur père américain. Donc, sont susceptibles de rechercher leur père américain.
C'était dans beaucoup de régions françaises.
Ah oui, il y en avait partout. Il y en avait en Moselle, en Indre, il y en avait à Verdun. On connaît les bases de Châteauroux, de Metz.
Les disparus comme ça, volontaires, disparus volontaires, est-ce qu'ils partent forcément loin ?
Pas forcément. D'ailleurs, même très souvent, on les retrouve à quelques kilomètres du lieu qu'ils ont fui.
Ça veut dire que c'est une vie où l'on se cache, où on change son identité, parce que si on habite à quelques rues de la personne qu'on a quittée.
Alors, on ne change pas
son identité. On peut la croiser.
Oui, tout à fait, c'est vrai. On ne change pas son identité, pas forcément. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de personne qui ait changé leur identité. Ce sont souvent, d'ailleurs, alors, les disparus, ce sont souvent des hommes qui sont eux-mêmes, qui ont eu des défaillances dans l'enfance, en fait, hein, qui ont eu des carences affectives, et qui vont reproduire le schéma, c'est-à-dire de peur d'être abandonnés, ils vont abandonner à nouveau, et ils ne sont pas capables tellement de maintenir une vie de famille stable.
Et le rêve américain dont je parlais après avoir écouté Serge Reggiani, est-ce que c'est un moteur de ces disparitions ou alors est-ce que c'est un fantasme ?
Non, alors le rêve américain, ça concerne essentiellement des femmes qui ont épousé des Américains, dans les années 60 surtout, mais ça s'est plutôt transformé en cauchemar, on va dire.
Une autre histoire à venir dans un instant sur RTL, celle de Claudie et Nicolette, deux sœurs, deux Françaises qui vivent au Brésil et veulent retrouver leurs parents disparus.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Mais tu penses à quoi, bordel ? Tu devais disparaître.
Je sais.
Tu devais disparaître, disparaître.
La curiosité est un vilain défaut.
Je t'embrasserai juste avant de disparaître.
C'est quoi les chances de retrouver des types comme ça ?
Soit c'est complètement gratuit, soit c'est très complexe.
Jusqu'à 22h.
Je m'inclinerai juste avant de disparaître.
Mais dans ce cas-là, on a peut-être une chance.
Pourquoi ?
Parce que quand c'est compliqué, les gens font toujours des erreurs.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quand c'est compliqué, les gens font toujours des erreurs. Extrait du film Sans laisser de traces avec Guillaume Canet. On raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes disparues, sans laisser d'adresse avec notre invitée, la journaliste Patricia Faguet. C'est vrai que quand c'est compliqué, les gens font des erreurs ? Quand il y a un scénario trop compliqué pour disparaître ?
Ah, je sais pas. Je sais pas si les gens font des erreurs. En tout cas, quand ils disparaissent vraiment. Il faut que je les déniche. Hein. C'est pas toujours facile.
Parce qu'on a raconté tout à l'heure l'histoire un peu rocambolesque là, de cette jeune femme qui est partie et dont le compagnon a monté un récit complètement faux, Chili, dans une basilique, etc. Donc, est-ce qu'il y a souvent des scénarios comme ça, fabriqués par ceux qui disparaissent ?
C'est assez rare quand même.
C'est assez rare.
Oui. Donc j'ai eu quelques histoires comme ça. Il y a l'histoire de Nicolette justement. Alors c'est pas un scénario monté de toutes pièces, mais c'est une histoire assez mystérieuse. Nicolette, elle me contacte, elle vit au Brésil. C'est une franco-russo-brésilienne. On va dire qu'elle est une maman française et d'un père russe à l'origine, qui arrive en France dans les années 30 et qui vont se marier, qui vont donner naissance à Claudie. Et puis qui vont partir très rapidement s'installer au Brésil où va voir le jour Nicolette.
Donc il y a deux sœurs.
Il y a deux sœurs, voilà. Ouais. Et c'est Nicolette qui me contacte. Elle a 76 ans et lorsqu'elle avait 4-5 ans, du jour au lendemain, ses parents ont disparu. Donc son père a été embarqué par une voiture noire.
Dans quel pays ? Au Brésil ?
Ça se passe à Sao Paulo.
Ça se passe au Brésil,
Ça se passe au Brésil. Ils ont quitté Paris et ils sont partis s'installer au Brésil.
D'accord.
Et
seul souvenir, c'est ce départ dans une voiture noire.
Exactement. Le seul souvenir de Nicolette et Claudie, c'est le départ de leur père enlevé par des hommes dans une voiture noire. On est en 1939. Et elles vont donc se retrouver seules avec leur maman. Et la dernière image qu'elles ont, elles sont dans une rue ou dans un champ avec leur mère. Et à nouveau, leur mère disparaît. On leur enlève leur mère.
Mais alors vous êtes contactée combien d'années après ?
Je suis contactée, là, il y a 2-3 ans.
Ah oui, donc 60 ou 70 ans après.
Complètement.
Qu'est-ce que vous avez comme matériel pour commencer l'enquête ?
Alors, j'ai l'identité des parents, puisque là, pour le coup, c'est des parents biologiques qui les ont reconnus toutes les deux. Nicolette me contacte en me disant, je recherche l'histoire de ma famille, je veux savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à mes parents, et je veux surtout connaître la partie française de mon histoire. Donc, elle vient à Paris, elle fait le voyage, et je me mets en quête de retrouver la trace de Georgette, donc sa mère, parce qu'elle me dit, je ne sais pas ce qui est arrivé à mes parents, ils ont disparu dans une rue de Sao Paulo en 39, est-ce que c'était pour retourner en France, alors qu'ils avaient précisément fui la France parce que se dessinait la Seconde Guerre mondiale. Donc pourquoi seraient-ils retournés en France, surtout en nous abandonnant, parce qu'on a des photos quand même avec nos parents où on est bien habillés, on est aimés.
Mmh. Où est-ce qu'ils ont été kidnappés ?
Et où est-ce qu'ils ont été kidnappés ? Est-ce qu'ils étaient prisonniers politiques ? Mmh. Pourtant ils n'étaient pas dans la politique, c'est très étrange. Bon voilà. Et donc je pars avec Nicolette sur les traces de sa mère Georgette.
D'abord en France ?
D'abord en France, puisqu'elle est née en région parisienne. Et là, administrativement, je ne trouve rien en dehors de ce mariage avec Stepan Matchulin, donc ce Russe arrivé en 1930, et pas de trace de décès. Donc son décès n'a pas été enregistré. Donc pour moi, c'est qu'elle n'est pas revenue en France.
Donc retour au Brésil ?
Donc c'est qu'elle n'a jamais quitté le Brésil. D'accord. Et qu'elle est peut-être décédée là-bas sans que le décès n'ait été retranscrit en France. Ouais. C'est la première chose à laquelle je pense. Donc je cherche, je remonte la généalogie de Nicolette, de Georgette, la mère de Nicolette.
La maman des deux filles.
Voilà, donc la grand-mère de Nicolette. Et là, je trouve le décès de la grand-mère de Nicolette, donc de la mère de Georgette. Et en retrouvant le décès dans les années 70 de la mère de Georgette, je retrouve trace d'un cousin germain de Nicolette, c'est-à-dire que la grand-mère avait eu une sœur, et effectivement ce cousin germain nous raconte qu'il a toujours entendu dire que sa mère avait eu une sœur, mais il n'en savait pas plus, c'était un grand mystère, il ne savait pas du tout qu'il avait une cousine au Brésil.
Donc cette porte-là, finalement, elle se ferme aussi.
Elle ne me fait pas avancer
du
tout.
Et c'est la piste des prisonniers politiques qui va vous permettre d'avancer.
Voilà. Donc prochain voyage, c'est à moi d'aller voir Nicolette au Brésil. Et on va enquêter sur place à Sao Paulo. Et on apprend qu'effectivement, son père a été effectivement embarqué par des hommes en tant que prisonnier politique et qui s'est retrouvé au Jouquerie, qui était une sorte d'asile pour prisonniers politiques tristement célèbre là-bas. Qui cachait plus ou moins en réalité un camp de concentration. Donc il y a des tas de personnes qui ont été emprisonnées et qui ont fini leur vie là-bas. Et ce qui est terrible dans leur histoire, c'est qu'on a découvert que son père avait bel et bien été donc enfermé au Jouquerie, où il était décédé en 66, mais que sa mère l'avait rejoint. Ils avaient probablement été isolés tous les deux au sein de ce Jouquerie, et la maman était décédée en 96, donc elles étaient à quelques kilomètres seulement de leurs parents sans le savoir.
Est-ce que ces deux sœurs, par exemple, ont regretté d'avoir su? Est-ce qu'elles auraient préféré ne pas savoir?
Ah, pas
finalement,
du tout. Non.
Qu'est-ce que ça leur a permis de faire finalement?
Ça leur a permis de faire le deuil de leur histoire. Ça leur a permis d'avoir des réponses à leurs questions, comme pour tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que jamais personne ne m'a dit j'aurais préféré ne pas savoir. Ouais. Les gens veulent savoir. La première angoisse des personnes qui me contactent, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé.
C'est l'inconnu,
Voilà. Mais elles ont retrouvé la tombe de leurs parents, par exemple?
Alors, on a retrouvé la tombe de Georgette.
De leur maman.
De leur maman. Tombe anonyme, donc Nicolette a écrit le nom de sa mère sur cette pierre blanche murale, c'était très triste, et on n'a jamais retrouvé la trace de la tombe du papa.
Alors on le disait tout à l'heure, vous avez travaillé une demi-douzaine d'années avec Jacques Pradel dans l'émission Perdu de vue, c'est là que vous avez attrapé ce virus de l'enquête. Qu'est-ce qui vous touche le plus, l'histoire de ceux qui sont partis ou de ceux qui cherchent?
Alors ce qui me touche, c'est ceux qui restent. Ce qui reste, évidemment, la détresse de ceux qui restent, le questionnement, l'envie de les aider, de les apaiser. En ce qui concerne les disparus, c'est plutôt de la curiosité. Voilà, je suis passionnée par l'enquête et par l'idée de dénicher les disparus, puis de leur apporter du bonheur, parce que je sais qu'au final, ça va apporter du bonheur à tout le monde.
Patricia Faguet, on peut vous joindre si on cherche quelqu'un dans sa famille, dans son entourage, via votre site personnesdisparues.com. Ça coûte cher de rechercher un proche?
Alors, moi, j'ai établi un système un peu particulier. Ça ne devient payant qu'en cas de résultat. Donc, si je ne retrouve pas, ça ne coûte rien.
Et il y a une fourchette?
Il y a une fourchette entre, on va dire, 1 000 et 5 000 euros quand j'ai rien.
Mais ça couvre les frais de vos voyages, en fait,
oui,
c'est ça, voilà, l'enquête?
Je ne gagne pas d'argent. C'est vraiment une passion dont je ne vis pas. C'est un plaisir.
Vous êtes journaliste.
Exactement.
Alors, comment se passent les retrouvailles entre celui qui est parti et ceux qui espéraient son retour? Quel sentiment se mélange? Il doit y en avoir beaucoup. C'est ce que l'on va découvrir dans un instant sur RTL. Et on écoute In Excess, qui parle de disparition. Non, ce sera tout à l'heure.
Vous écoutez RTL.
Disparus sans laisser d'adresse, c'est le thème de notre curiosité et le titre du livre de notre invitée, la journaliste Patricia Faguet. Vous avez enquêté sur combien de personnes disparues depuis 25 ans? Ça fait 25 ans que vous les cherchez.
Oh là là, ça je n'ai pas compté.
C'est vrai.
Quand on aime, on ne compte
pas. Ça se compte en dizaines?
Ça se compte en milliers, franchement.
En milliers?
Oui.
Parce qu'il y a toutes les amorces que vous menez pas plus loin. Parce que si vous avez fait des milliers d'enquêtes, ça prend énormément de temps.
Enfin, j'ai fait des milliers de retrouvailles,
Ah oui.
Ah oui, parce que à l'époque de Perdu de vue, déjà, j'ai retrouvé un cahier où je l'ai comptabilisé, et au bout de 2 ans de Perdu de vue, j'en étais à 186, je crois. Donc en 25 ans, j'en suis à des milliers, c'est sûr.
Et des retrouvailles, vous en avez organisé beaucoup, Patricia
Faguet? Beaucoup. Ouais. Franchement, je suis incapable de les compter.
Et la dernière en date, vous vous en souvenez?
Ah bah, la dernière en date, elle date d'il y a 3 jours. C'est une maman d'origine algérienne qui m'avait contactée. Ça faisait 1 an qu'on était en communication toutes les deux, et on a eu enfin l'occasion de se rencontrer. Elle a 60 ans. Elle s'appelle Fatia et elle était à la recherche de sa fille à qui on l'a arrachée quand elle avait 3 mois, et donc elle recherchait désespérément cet enfant depuis 40 ans, puisque voilà, elle a eu 40 ans il y a 2 jours, sa fille, et je l'ai retrouvée en 48 heures. Accompagnée de Fatia, elle a mené l'enquête avec moi et on n'a pas lâché, et les retrouvailles ont eu lieu Gare de Lyon il y a 3 jours.
On imagine, enfin d'ailleurs je dis ça, mais non, ça doit être difficile, j'ai du mal à me mettre à leur place. Qu'est-ce qui s'entremêle comme sentiment au moment des retrouvailles, parce qu'ils doivent vous raconter ça?
Oui bien sûr. Alors la première émotion, je dirais que c'est la surprise, c'est la joie, c'est le soulagement, évidemment. C'est les larmes de bonheur.
C'est une proximité aussi qui s'établit assez vite.
C'est oui, c'est comme si c'était jamais quitté. C'est quasiment immédiat. Bon, ils vous voient hein, quand même. Parfois, la première réaction, c'est de se vouvoyer, mais très vite, on passe au tutoiement.
Et puis, c'est un peu de culpabilité aussi.
Alors, il y a un peu de culpabilité. Il y a forcément de la culpabilité, surtout de la part du retrouvé. Et qui, bizarrement, qui va se transformer en culpabilisation assez rapidement derrière, parce que c'est difficile d'éprouver ces émotions de culpabilité. Donc,
du genre, pourquoi tu m'as pas cherché plus tôt?
C'est exactement ça. Mais pourquoi tu m'as pas cherché plus tôt
Et pourquoi ils ne vous ont pas rencontré plus tôt aussi? Parce que tout ce temps perdu, on a envie de dire.
Oui, ben en fait les gens font beaucoup de démarches, mais ils tombent pas toujours sur les bonnes personnes et.
Il y a des arnaqueurs dans votre domaine.
Ah ça je sais pas.
Les charlatans? Non, sans désigner personne.
Franchement, je sais pas. Non, les gens qui s'adressent à moi, en général, n'ont fait que des recherches personnelles ou des recherches dans l'intérêt des familles à l'époque où ça existait encore et n'ont pas abouti. Donc, je suis un peu leur dernier espoir.
Hein. Est-ce qu'il y a des gens, parce qu'il faut aussi imaginer ça, qui viennent vers vous parce que ils veulent qu'un disparu soit déclaré décédé pour pouvoir toucher l'héritage?
Ah non. Ça n'arrive pas, ça.
Ça vous est jamais arrivé?
Non, ça m'est jamais arrivé, Dieu merci, hein, parce que franchement, ça ne m'intéresserait pas du tout. Ouais. Moi, je ne m'intéresse qu'aux histoires affectives. Et il faut qu'il y ait de la bienveillance, il faut qu'il y ait de l'amour. Si je sens qu'il y a... Je creuse un peu les gens, je fais mon interview avant de démarrer quand même. Si je sens qu'il y a une histoire d'héritage derrière, une succession non réglée, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors,
Pour en vous en rendre compte assez vite. On parlait hier, Patricia Faguet, dans la curiosité de la sérendipité.
Oui.
Ces heureux hasards qui permettent de faire avancer la science. Est-ce que vous en avez bénéficié aussi dans vos recherches?
Oh oui. Et j'ai mis longtemps à mettre un terme sur cette chose qui m'arrivait, que j'ai longtemps appelée de la chance. Il m'arrivait d'atterrir dans un pays et de tomber nez à nez avec la personne que je suis venue chercher. Franchement, c'est fou.
Il y a une histoire que vous racontez dans votre livre « Disparu sans laisser d'adresse, enquête sur 40 histoires vraies » aux éditions de L'Opportun. On va peut-être pas tout raconter, mais vous arrivez à San Diego, au consulat de France, c'est ça?
Voilà, typiquement une histoire où la sérendipité m'a accompagnée. Je vais rechercher Guy Richard à la demande de sa sœur. Ouais. Guy Richard a disparu dans les années 70. C'est un joueur de gratte, il jouait sur le but Montmartre, un très bon joueur de guitare. Et un jour, il part tenter sa chance aux États-Unis et sa sœur lui offre sa première guitare. Ils s'écrivent, tout se passe bien. Il lui envoie un article, il est en train de devenir une star à San Diego. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Donc, elle mène des recherches, évidemment, qui n'aboutissent pas. Elle me contacte. Je pars à San Diego avec mon petit programme en me disant, je vais à la dernière adresse de Guy. J'avais son adresse. J'avais plusieurs idées en tête.
Des photos?
J'avais des photos.
Ouais.
Et en me posant à San Diego, je ne sais pas pourquoi, je bouleverse mon plan et je me dis, je vais commencer par le consulat. Alors, j'avais écrit au consulat quand même à deux reprises et je n'avais pas eu de réponse. Mais je me dis, je vais aller au consulat. Je ne peux pas imaginer que ce Guy Richard ne se soit pas inscrit à un moment donné, ne se soit pas officialisé, jouer de la gratte, il devait gagner quand même des cachets. J'arrive au consulat qui se situe au premier étage d'une boulangerie. Déjà, c'était improbable. Et je suis reçue par une jeune femme française à qui j'explique mon histoire et qui me dit, écoutez, bougez pas, je vais chercher quelqu'un parce que monsieur le consul n'est pas là. Et elle revient avec un Français, chemise hawaïenne, installé aux États-Unis depuis très longtemps, visiblement, et qui me dit, vous recherchez qui? Je lui dis, écoutez, je recherche un Français qui a disparu dans les années 70. Il me dit, mais il s'appelait comment? Je lui dis, ça va rien vous dire, mais il s'appelait Guy Richard. Il me dit, mais Guy Richard, mais j'ai très bien connu. Je lui dis, non, c'est pas possible. Il me dit, si, un très bon joueur de gratte. Je lui dis, ouais.
C'est drôle.
Et très bon joueur d'échecs aussi. J'ai dit, ah bon, mais ça je savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Mais il me dit, malheureusement, il est décédé il y a très longtemps. Il est tombé dans la drogue. Quand on parlait du rêve américain, et je vous disais que ça se terminait souvent en cauchemar, malheureusement, voilà, Guy Richard est arrivé aux États-Unis au moment où les drogues dures faisaient des ravages. Et malheureusement, il est décédé très rapidement, dès qu'il a pu donner de nouvelles à sa sœur, en fait. Donc ça faisait plus de 25 ans, d'où son silence.
Qu'il ne parle plus.
Patricia Faguet, l'une des enquêtes qui vous a le plus touchée, c'est une enquête autour d'une de vos grands-mères.
Ah oui.
Quelle est cette histoire?
Eh bien, en fait, quelques années après être entrée à perdue de vue, j'ai appris de la bouche de ma maman que j'étais moi-même petite fille d'une grand-mère née sous X. Et je ne le savais pas. Bon, c'était pas un secret de famille, mais c'était un sujet qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'aborder. Donc j'ai tout de suite questionné mon père, qui m'a révélé le peu d'informations qu'il avait. Et notamment le nom de la mère biologique de sa mère. Donc il avait toujours entendu dire que c'était une dame Girard qui habitait à Rochefort, puisque mon père était originaire de là. Et j'ai commencé à mener une enquête qui m'a menée vers une famille Girard qui m'a tout de suite annoncé que non, c'était pas possible que ce soit eux. Donc j'ai baissé les bras et puis j'ai laissé tomber jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, en fait, puisqu'il y a un an et demi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai posté une annonce sur Facebook. Je me suis dit, après tout, hein, ça marche. Et c'est tombé entre les yeux d'une dame qui est est retraitée et qui s'appelle Nelly et qui m'a proposé son aide, que j'ai accepté volontiers, parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein, je m'occupe des autres, mais j'avais pas le temps de m'occuper de moi-même. Et elle a donc recommencé l'enquête à zéro, et elle a abouti au même résultat que moi il y a 10 ans, sur cette même famille Girard, sauf qu'elle, elle avait vraiment beaucoup plus d'arguments que moi, et c'était indéniable que ce soit ces personnes-là, donc je les ai contactées, et ils se souvenaient d'ailleurs de mon coup de fil il y a 10 ans. Et je leur ai dit, écoutez, si ça vous ennuie pas, le seul moyen qu'on arrive à tirer ça au clair, c'est de faire un test ADN. Moi, mon papa est toujours en vie. Vous, qui seriez ses cousines germaines, voilà, vous êtes toujours là aussi, tous nonagénaires. Si vous êtes OK, on y va. Donc, on a fait un test ADN. Enfin, mon père a fait un test ADN avec une des cousines germaines supposées qui s'est avérée positif.
Donc, vous avez découvert des cousins.
J'ai découvert, ouais, il y a très récemment, d'ailleurs, un cousin issu de Germain, pour le coup, très éloigné, mais la retrouvaille a été fabuleuse. J'ai pu voir des photos, j'ai pu mettre un visage, ça a été magnifique.
Merci beaucoup Patricia Faguet.
Merci moi, Patricia.
Votre livre Disparu sans laisser d'adresse est publié aux éditions de L'Opportun.
Vous écoutez RTL.